Pauline Pucciano, Titania 3.0. Chapitre 14. Rechute. Titania, à son réveil, n'avait vu que Jean. Jean qui lui avait baisé le visage et les cheveux dans une folle étreinte. Jean qui lui avait murmuré des mots de joie, sans suite, jusqu'à l'ivresse. Elle s'était éveillée dans un éclat de tendresse, mesurant tout le prix de la vie qui lui était miraculeusement rendue. Jean l'avait ensuite assaillie de questions et d'explications, entourée de sollicitude, enivrée de tendresse. Elle avait parlé, elle aussi, allongée continue, de cette expérience affreuse qu'elle venait de vivre et dont elle sortait, grandie, plus profonde. Elle était morte là-bas, jusqu'au bout, et son retour dans le monde des vivants l'emplissait d'une certaine incrédulité et presque de crainte. Lorsque Jean s'était finalement tu, lorsque le sommeil l'avait pris, Titania s'était retrouvée seule, face à son destin, dont tous les voiles mystérieux tombaient, dont tous les enchantements se flétrissaient à la lumière crue de sa lucidité recouvrée. Jean, qui dormait à côté d'elle sur le pauvre lit de camp de la remorque, souriait aux anges. Elle, les yeux grands ouverts dans la pénombre, s'abandonnait à une sorte de prise de conscience ténébreuse. Jean l'avait sauvée de l'anéantissement, et elle lui en serait éternellement reconnaissante. Mais la vie qui se dessinait devant eux lui faisait peur. Elle observa, effrayée, chaque détail de la remorque où elle avait émergé, à demi noyée. Les taches de rouille rongeant les parties métalliques de la carrosserie, l'effritement des plastiques usés, la lumière agressive et avare du néon. Il n'y avait là aucune fenêtre ouverte sur quoi que ce fût, aucune beauté d'aucune sorte. Ils étaient enfermés dans un petit cercueil de laideur et de décomposition, où l'air vivifiant de l'art n'entrerait jamais. Ils n'avaient pas accès à une douche ou à un miroir. Bientôt, les aigreurs de la sueur flotteraient dans l'air lourd. Bientôt, leurs haleines chargées se mélangeraient à l'atmosphère pesante de cette vieille machine. La reine de chair et de diamants était bien morte chez Morgan Corp, et la créature qui lui survivait, qui renaissait de ses cendres, était une larve informe qu'il serait bien difficile de continuer à aimer. Des larmes lui étaient montées aux yeux, et elle fut prise de panique à l'idée que Jean se réveillerait peut-être et la verrait pleurer. Pouvait-elle seulement lui infliger le spectacle de sa souffrance ingrate ? Elle se jura qu'elle ne lui montrerait rien et qu'elle jouerait pour lui, dût-elle en mourir, le rôle de la princesse délivrée. Elle serait son Eurydice, puisqu'il était poète et qu'il avait été la chercher dans le royaume des morts. Mais cette histoire, comme tant d'autres, finissait mal. Elle songea à tout ce qui pouvait entourer le camion, dans ce périphérique dont elle aurait aimé pouvoir nier l'existence, et son imagination fiévreuse lui figura des tortionnaires et des monstres, des meurtres perpétrés dans la fange, des objets de douleur et de domination. Ses larmes commençaient à ruisseler, et Titania savait que si elle ne parvenait pas à les endiguer immédiatement, elles couleraient sans discontinuer pendant des heures. Essayant de maîtriser sa respiration, elle se leva et se dégagea très délicatement des bras de Jean. En cherchant dans le sac d'autres vêtements, elle aperçut, sous une banquette éventrée, un coin de la valise blanche, nacrée, qui brillait singulièrement dans l'ombre. Elle paraissait d'origine extraterrestre, faite de lumière plutôt que de matière, et Titania s'arrêta de pleurer, fascinée. Jean lui avait bien dit qu'il avait récupéré cette valise, et il lui avait longuement décrit toutes les émotions qu'il avait ressenties en l'ouvrant. Mais le fait de la voir provoquait en elle quelque chose d'inattendu. C'était un peu de sa gloire passée qui était à portée de sa main. Elle la tira, très doucement, et l'ouvrit. Il y avait presque tout. Elle se dépouilla des vêtements simples que Jean lui avait achetés pour enfiler une robe qu'elle avait roulée en boule pour protéger le Hervé. La caresse de la soie sur sa peau lui donna un frisson. Elle choisit aussi dans l'un des coffrets une parure de diamant assez discrète qu'elle accrocha avec soin à ses oreilles, son cou, son nez, son nombril, ses chevilles. Avec une sorte de compulsion, elle saisit ensuite une puce 3D et l'inséra dans son hub, et elle fut pour une minute, loin de ce camion odieux, dans les espaces d'ocre et de rouge du Grand Canyon qu'un coucher de soleil incendiait. Malgré le léger malaise qui l'envahit, elle lut encore une puce, puis une autre, et s'offrit ainsi des échappées fulgurantes dont elle sortit au bout de 5 minutes seulement, nauséeuse et bouleversée. Elle ne pourrait utiliser à nouveau son hub sans vomir, et, à regret, elle se mit à ouvrir les autres coffrets pour toucher ses bijoux, ses objets d'art et ses autres souvenirs. De fil en aiguille, sa main finit par se poser sur son Hervé. Elle n'eut pas le temps de réfléchir ou de se poser la question. Elle l'alluma parce que la tentation était tout simplement irrésistible, parce que, exclue du réseau, elle avait un mal du pays à se cogner la tête par terre et que son pays était là, tout entier, accueillant et familier, au bout de ses doigts. Lorsque Mito entra dans le camion, la première chose qu'il fit fut d'arracher le Hervé de Titania pour l'éteindre. Elle le regarda avec des yeux hagards, des yeux de victime se rendant à l'Holocauste, des yeux dont toute considération pratique s'était enfuie. Elle ne l'avait jamais rencontré, mais elle devinait qui il pouvait être. « Jean !» cria Mito. « Ne lui dites pas, je vous en prie !» dit Titania affolée. « Sauf ton respect, mignonne, j'ai risqué ma vie et celle d'une demi-douzaine de compagnons pour te tirer d'affaire. Je t'ai personnellement trimballé comme un paquet dans un caddie à travers la moitié de la ville, alors on va pas faire de manière. « Jean !» répéta-t-il en haussant la voix. « Il ne comprendra pas !» s'écria-t-elle. « Il n'est pas stupide et ce n'est pas si difficile à comprendre. C'est juste que tu es aussi doué pour la survie que moi pour la danse classique. C'est aussi simple que ça. Si on ne te surveille pas de près, tu vas tous nous faire prendre. Alors dans ton propre intérêt, je te recommande de laisser faire les grandes personnes, du moins celles qui ont envie de vivre. » Jean avait du mal à sortir du sommeil et ouvrit les yeux avec difficulté. « Que se passe-t-il ? Ta chérie vient de se connecter au réseau, voilà ce qui se passe. D'après moi, c'est une rupture de contrat pour les gens qui nous planquent. Et toujours d'après moi, on dispose d'environ 30 minutes avant que la police ne se ramène. »«
Titania, pourquoi ?»
Jean ne termina pas sa question en voyant le visage désolé de la jeune femme. Il se leva d'un bond, se frotta le visage avec ses mains. « Que faut-il faire, Mito ?» Mito prit une profonde inspiration et débita lentement. « Il faut décamper, il faut détruire son Hervé, il faut la déconnecter. »«
Me déconnecter ?»«
Tu es truffée d'implants connectés, ma petite. D'ici très peu de temps, la police aura accès à tout ça. J'ai regardé le bout de tes doigts. Tu as un hub, des griffes, que sais-je encore. Il y a des puces géolocalisables dans toutes ces saloperies. »
Titania porta instinctivement la main à son hub et se retint de dire qu'elle l'avait utilisé aussi. Mito tenait toujours le Hervé.
« On n'a pas le temps de faire dans la dentelle, Jean. Je te laisse 15 minutes pour le lui faire comprendre, et moi je vais négocier avec le tatoué pour qu'il nous escorte chez les écumeurs. Il va falloir graisser beaucoup de pattes. »
Titania, confuse, ne protesta pas. Mito emporta son Hervé, et elle le regarda quitter le camion, troublée.
« Je ne sais pas ce qui m'a pris, Jean. Je crois que je suis encore très bouleversée. »
Jean sourit. « De toute façon, on n'avait pas très envie de rester dans ce camion, si ?»
Titania sourit aussi. « Qui sont les écumeurs ?»«
Des hackers organisés en association. Ils ont la haute main sur le piratage du réseau. »
Titania retira la robe voyante qu'elle avait enfilée pour remettre ses vêtements neutres.
« Ils ont le matériel nécessaire pour m'opérer ?»
Jean la serra dans ses bras.
« Je ne sais pas. Il faut essayer de faire les choses pas à pas, parce qu'on ne maîtrise pas grand-chose. Mais j'ai une confiance aveugle en Mito. C'est lui qui t'a sauvé. »
« Bien sûr, » dit Titania. Elle fit un effort surhumain pour ne pas se remettre à pleurer, pour ne pas penser à l'avenir, et s'abandonna à l'étreinte de Jean.
« Pourquoi as-tu voulu mourir, Titania ? Pourquoi n'es-tu pas venue toi-même au rendez-vous ?»
Titania avait envie de répondre qu'elle n'avait pas eu le courage de s'engouffrer dans cette déchéance. Le périphérique, la déconnexion, la vie clandestine. Elle avait envie de répondre aussi qu'une part d'elle-même souhaitait disparaître.
« Je croyais naïvement que ma mère ne me laisserait pas aller jusqu'au bout, » dit-elle. « Et puis, je ne pensais pas qu'on pouvait y arriver. »
Il la serrait toujours contre lui et lui caressait les cheveux derrière la tête, à l'endroit où son crâne avait été partiellement rasé pour la trépanation.
« Je suis tellement heureux que tu sois là. »«
Moi aussi, je suis heureuse. »«
Jean ?»«
Oui. » »«
Cette nuit, j'ai fait un rêve dont je voulais te parler. Je visitais un couloir de la mort, » et les détenus avaient une drôle de banderole sur laquelle étaient inscrits les mots « Debout dans le temps ».«
Debout dans le temps ».
« Crois-tu que tu pourrais m'en faire un poème ?»
Jean sourit dans le noir. Il est à la jonction des mondes, un espace trouble et mouvant, peuplé de spectres tournoyants et de princesses vagabondes. La lumière qui filtre est pâle en ces régions des enfers où les démons de la cabale roulent dans une étrange mer. Je vois leurs visages grotesques à travers les fumées du soir, et j'entends leurs rires simiesques sonner comme des au revoir. Nous quitterons cette frontière de grand matin et voile au vent,
Nous dissiperons ces chimères, nous sommes debout dans le temps. » Titania avait fermé les yeux et elle embrassa Jean longuement pour le remercier. « C'est encore mieux que les voyages virtuels, » souffla-t-elle. Jean n'eut pas le temps de répondre, car Mito, l'air pressé, tenant toujours le Hervé de Titania, ouvrit la porte de la remorque avec fracas. « Allez, on met les voiles. La femme à la peau de serpent n'était pas contente, j'ai dû lui balancer un collier. Le tatoué nous escorte jusqu'à la station Porte de la Chapelle, mais ils n'ont pas voulu entendre parler de garder le Hervé. On va devoir l'emporter avec nous. » Tout en donnant son sac à porter à Titania, et en saisissant la valise, Jean demanda. « Pourquoi ? Ils ne peuvent pas tout simplement le détruire ? Ils disent que les Hervé cassés sont encore géolocalisables. Ils ne veulent pas de descente de police. » Le trajet qui devait les conduire chez les écumeurs leur parut incroyablement long, bien que le tatoué imposât un rythme de marche très soutenu. La nuit était plus noire que dans le reste de la ville. Les panneaux solaires ne fournissant l'électricité que pendant la journée, il y avait juste à cette heure tardive quelques vasques où rougeoyaient des braises et quelques torches. Le tatoué marchait devant, talonné par Mito, et Jean et Titania les suivaient, la capuche de leur gilet rabattue sur le visage, tête baissée. Ils faisaient attention où ils mettaient les pieds, car l'espace alloué au passage se rétrécissait parfois au profit des baraques composites où vivaient certains HR. Ils risquaient parfois un coup d'œil devant, sur les côtés ou en hauteur, et tombaient alors sur des silhouettes fixes ou des regards appuyés. Jean n'aurait pas su définir exactement ce qui les désignait à ce point comme des nantis. Il y avait la valise, bien sûr, mais aussi autre chose. Leur peur devait se sentir à plusieurs mètres à la ronde, leur démarche mal assurée, la fraîcheur de leur teint, leur jeunesse qui n'était pas passée au crible d'une enfance dans la rue, la beauté de Titania, si dangereuse en un tel lieu, tout les accablait. Jean remarqua bientôt qu'une petite cohorte s'était mise à les suivre, et il entendit le déclic caractéristique des griffes de Titania. À la grande surprise de Jean, elle se retourna et montra ses lames d'un air dédaigneux, et les trois ou quatre hachères indécis s'éloignèrent. Le tatoué était, de loin en loin, obligé de s'arrêter et de parlementer à voix basse, afin qu'on leur laissât le passage. Jean éprouvait, mêlé à sa peur, une grande curiosité pour ce lieu. Il avait l'impression, par exemple, que les HR ne dormaient pas, du moins pas comme les nantis. Ils se reposaient, immobiles, mais tout habillés, tout armés, comme des soldats prêts à bondir hors de leurs rêves au moindre signal de la garde. Tout devait être prétexte à la lutte, ici. Le matériel, le territoire, les réseaux d'alliances. À un moment, le tatoué parlementa plus longtemps, et Mito devint nerveux. « C'est la valise, » murmura-t-il. « Quoi, la valise ? Ils la veulent. » Jean eut une poussée d'adrénaline. Il y avait là beaucoup de bijoux et toutes les puces 3D de Titania, mais il avait toujours dans ses poches une poignée de pierres précieuses et le souvenir 851 qu'il avait retiré du hub de Titania à son réveil. Le tatoué hocha le menton et parla à voix basse à Mito. « Donne-moi la valise, je vais essayer de négocier, » dit ce dernier à Jean. Jean, sans hésiter, lui passa la valise, et Mito se rapprocha du tatoué et de son interlocutrice, une amazone qui arborait un sein unique au galbe parfait, tandis que son fusil automatique était accroché en bandoulière à l'emplacement de l'autre. « Il y a des souvenirs personnels là-dedans, » hasarda Mito, « des puces qui n'ont aucune valeur et qui n'ont d'importance que pour eux. » « Toutes les puces ont de la valeur, » dit-elle d'un air buté, « et tu le sais très bien. » La valise avait été arrachée de ses mains par un sbire de l'Amazone et ouverte à même le sol. Comme dans le camion, l'objet blanc et impeccable faisait tache. Les petits coffrets vernis, alignés, paraissaient tomber du ciel. « Si on les jouait, » proposa Mito, « ou bien tu nous en laisses juste un seul coffret de ton choix. » « Et si je refuse ?» demanda l'Amazone avec un sourire cruel. « Qu'est-ce que tu vas me faire ?»« On a payé notre escorte de façon régulière, » dit Mito. « La patronne ne sera pas contente qu'on ait dépouillé ses protégés. » L'argument parut porter, et l'Amazone se retourna vers le tatoué. « Et si on partageait le butin avec la peau de serpent ?» proposa l'Amazone. « Après tout, on a promis de protéger les personnes, pas les biens, » dit le tatoué. L'Amazone eut un sourire et tourna autour de Jean et de Titania. « Qu'est-ce que vous faites là, les mignons ? Vous vous êtes perdus ?» Jean et Titania, les yeux baissés, ne répondirent pas. Mito, qui voyait que la situation tournait au vinaigre, intervint. « Ils ne protesteront pas. Laissez-nous juste aller jusque chez les écumeurs. » L'Amazone fit descendre délicatement la capuche de Titania. Jolie, très jolie, murmura-t-elle.
Mito s'interposa physiquement, avec une audace qui surprit tout le monde. Le tatoué vient de dire qu'il protégeait nos personnes. Est-ce que le tatoué est un menteur ?
Le culot de Mito lui valut quelques rires parmi les hachères de l'Amazone qui assistaient à la scène.
« Fais voir !» ordonna-t-elle au sbire qui avait ouvert la valise. Il ouvrit un à un tous les petits coffrets vernis. « Vide les boîtes !»
Les puces, les objets d'art, les bijoux se retrouvèrent pêle-mêle.
« Remplis deux coffrets et tire-toi de là avec tes gosses de riches !» lança-t-elle au tatoué.
« Il y en a sept !» protesta-t-il.
« Exact, et tu en remplis deux. Je n'ai jamais parlé d'un partage 50-50. »
Le tatoué se hâta de remplir deux coffrets et donna à Mito le signal du départ.
« Mon bonjour aux écumeurs !» s'esclaffa l'Amazone, alors qu'il s'éloignait.
Ils entendirent, sur plusieurs dizaines de mètres, les moqueries et les huées des hommes de l'Amazone. Jean essayait de retrouver une respiration normale.
« Qu'est-ce que je te disais tout à l'heure ? » demanda-t-il à Titania.
« Je vois leurs visages grotesques à travers les fumées du soir, et j'entends leurs rires simiesques sonner comme des au revoir. C'est plutôt de circonstance, tu ne trouves pas ?»
Titania le regarda, d'un air infiniment triste.
« J'ai perdu tous mes souvenirs, » lâcha-t-elle d'une voix blanche. « Il ne m'en reste pas un seul. »
Jean voulut lui prendre la main, mais ses griffes étaient toujours dehors.
« Si, un, » dit-il, en lui tendant le souvenir 851. « Je crois que c'est ton préféré. »
En un éclair, elle rentra ses griffes, saisit la puce et l'inséra dans son hub.
« Tu ne peux pas la lire maintenant, » protesta Jean.
« Donne-moi la main et guide-moi, » lui ordonna-t-elle.
Puis, sans crier gare, elle démarra la lecture.
Jean, pendant une minute, eut l'impression de tenir la main d'une morte vivante qui avançait docilement, droit devant elle, les yeux grands ouverts et aveugles. Mito et le tatoué avaient encore accéléré l'allure et ils arrivèrent bientôt au niveau d'une sorte de puits où des barreaux métalliques s'enfonçaient dans l'ombre.
« C'est ici, » dit le tatoué. « La station désaffectée de la porte de la chapelle est juste en bas. »«
Les écumeurs nous laisseront entrer ?» demanda Mito.
« Ah, ça n'est pas mon problème !»
Le tatoué, ses deux petits coffrets vernis sous le bras, rebroussa chemin. Il y avait des hachères qui s'éveillaient et commençaient à se rassembler autour d'eux. Titania, le visage empourpré, paraissait ranimée et rayonnait d'une sorte d'ivresse. Elle embrassa Jean sur les lèvres, devant Mito qui fronçait les sourcils, incrédule.
« Tu as vraiment le génie pour faire des choses saugrenues et dangereuses !»«
Bon, on va pas traîner ici. Je descends en premier. Jean, tu fermes la marche !»
Jean les regarda tous deux amorcer la descente. Plus bas, toujours plus bas dans ses bas-fonds, songea-t-il, anxieux. La vision de Titania, hagarde et hallucinée, s'évadant du réel en pleine situation de danger, l'avait mis indiciblement mal à l'aise. Elle était vivante, certes, mais elle n'était pas encore sauvée.